Radio Kapi.
Des centaines de personnes, tout âge confondu, sont descendues ce matin dans les rues de Goma pour témoigner leur soutien au FRDC face à l'agression du Rwanda à travers le M23. Cette marche a été appelée par la coordination urbaine de la société civile. Dans ce journal, vous suivrez plus de détails. L'actualité en cette soirée nous amènera aussi dans le nord Ubangi, précisément à Taraigini. Nous sommes dans le territoire des Yakoma, où l'on signale des affrontements interclaniques le week-end dernier qui ont causé la mort de deux personnes et des blessés graves. Nous parlons recherche et approche de pacification avec professeur Philippe Kanganda de l'Université évangélique en Afrique. Notre invité aborde la question liée à la valeur et les défis de l'éducation à la paix. Merci de choisir Radio Okapi pour votre information. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la marche de soutien au FRDC face à l'agression du Rwanda à travers le M23 organisée par la coordination urbaine de la société civile ce mercredi dans la matinée s'est muée en une marche de colère. Plusieurs centaines de jeunes, hommes, femmes et personnes vivant avec handicap ont manifesté dans les grandes artères de Goma pour exprimer leur ras-le-bol contre cette énième agression de la RDC par le Rwanda et exprimer leur indéfectible soutien au FRDC. La police a dû faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants remontés jusqu'à la grande et petite barrière. Le point avec Gabriel Ouamenia.
C'est dans une ambiance survoltée que la marche de soutien aux FRDC est partie du croisement communément appelé entre présidents jusqu'au centre-ville en passant par les gouvernorats des provinces. C'est une foule compacte et homogène des manifestants constituée essentiellement des jeunes qui manifestent arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Courage et bravoure à nos vaillants FRDC, les M23, c'est le Rwanda de Kagame ». Fin de citation. Dans la foulée, on pouvait apercevoir d'autres manifestants transportant des cartons, symboles des cercueils où l'on a affiché l'effigie du président rwandais Paul Kagame. C'est au niveau du rond-point Bédégène que la marche de soutien aux FRDC s'est rapidement muée en marche de colère. À la grande barrière, cet habitant ne cache pas sa colère.
Dans la paix, tous les militaires sont en train de mourir là-bas. Pourquoi? M23, c'est qui d'abord?
Des manifestants exaspérés de colère qui se sont massés jusqu'à la grande barrière ont été stoppés par un dispositif important de la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Pour l'instant, les trafics sur les deux frontières restent suspendus et toutes les activités restent paralysées. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, au troisième jour d'occupation de Bunagana par les rebelles du M23, un calme précaire règne ce mercredi matin dans la zone. Il est vrai cependant que des détonations ont été entendues pendant quelques minutes dans la région mardi soir et ce mercredi, en milieu de la journée, indiquent plusieurs sources civiles et militaires. Pendant ce temps, le trafic sur l'axe routier Rutshuru-Bunagana reste coupé au niveau de Prémidis, à quelques 3 kilomètres du centre de Bunagana. Bernardin Nyangi.
C'est hier soir vers 15h locales que l'armée a répondu à une attaque des rebelles qui voulaient contourner une de ses positions vers le village de Jomba, a précisé le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le major Njiki Kaiko. Encore en milieu de la journée ce mercredi, quelques crépitements de balles ont été entendus dans la région dont les détails ne sont pas encore connus, précisent différentes sources locales. Pour ces sources, l'armée maintient toujours ses positions, surtout l'axe retour au Prémidis en passant par Tchengerero, alors que Bunagana reste toujours maintenu par les rebelles. Depuis lundi, rappellent ces sources, le trafic routier retour Bunagana reste coupé au niveau de Prémidis, effectivement. Les cadres de base de Bunagana, en déplacement à Kisoro en Ouganda, déplorent cependant quelques mouvements de véhicules entre le territoire ougandais et la cité de Bunagana, en faveur selon eux des rebelles. Ces derniers, après avoir cassé les portes de tous les bureaux de services aux frontières, géreraient ces trafics pour leur compte. Ces sources précisent par ailleurs que, globalement, la situation est demeurée calme ce mercredi sur tous les fronts dans le territoire de Rutshuru. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
En rapport avec la situation dans la partie est de la RDC, les troupes de la MONUSCO se trouvent présentement en position défensive à 4 kilomètres de Bunagana. Dans le cadre des opérations en cours déclenchées par les FRDC, les casques bleus apportent leur appui à l'armée congolaise pour la reprise de cette localité passée aux mains du M23 depuis le 13 juin dernier. Révélation du porte-parole de la force de la mission, le lieutenant-colonel Frédéric Harvey, au cours de la conférence de presse des Nations Unies de ce mercredi 15 juin 2022. Les propos de l'officier onusien sélectionné par Honoré Missenga Kalala.
L'opération dans la région de Rutshuru a commencé peu après que les militaires du M23 aient lancé une attaque contre les troupes de la MONUSCO à partir de plusieurs directions. Les troupes de la force de la MONUSCO ont riposté proportionnellement en utilisant les moyens les plus appropriés. Depuis le 22 mai 22, les troupes de la MONUSCO sont déployées dans la zone générale pour dissuader le M23 de commettre de nouvelles atrocités. Le 13 juin 2022, la position de Bunagana était tenue par les FARDC. Avant et jusqu'à ce que le M23 ne s'en empare, les troupes onusiennes sont en position défensive présentement à environ 4 km de Bunagana. Avec les activités opérationnelles en cours dans la zone générale de Rutshuru, la force, tout en se soutenant mutuellement des FARDC, envisage de reprendre la position de Bunagana pour normaliser la vie de la population locale.
Par ailleurs, au cours de la même conférence de presse, la porte-parole adjointe de la MONUSCO a fait part du message de la représentante spéciale Bintou Keïta, réitérant son appel à la cessation des hostilités, à la désescalade et à la retenue dans l'est de la RDC. Le message de la chef de la mission onusienne invite également les acteurs du conflit à la compassion pour que cessent les massacres des civils, des femmes et des enfants, surtout tout en appelant les groupes armés à donner une chance à la main tendue par les chefs d'État Félix Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta à travers le processus de Nairobi. 123 000 déplacés comptés dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo et au moins 8 000 personnes ayant traversé la frontière pour se réfugier en Ouganda à la suite des affrontements déclenchés depuis mai 2022. Ce sont là les chiffres donnés par la nouvelle représentante du HCR en RDC, Angèle Dikongwe Atangana, au cours de la même conférence de presse des Nations Unies de ce mercredi, dont elle était l'invitée spéciale en prévision de la Journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin de chaque année. Un extrait du message de Madame Dikongwe, sélectionné une fois encore par Honoré Missenga Kalala.
La situation actuelle au Nord Kivu nous interpelle. Depuis le 19 mai, nous avons au moins 123 000 personnes qui ont été déplacées, dont au moins 8 000 qui ont traversé la frontière. Nous enregistrons des décès également, y inclus des décès de personnes déplacées ou qui essayent de retourner chez elles. Nous voulons dire à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, nous appelons la solidarité et l'engagement continu de la communauté internationale pour se rassembler et identifier, mettre en œuvre les solutions de rapatriement, d'intégration et de réinstallation. Ensemble, nous sommes tous plus forts.
Sans l'implication des politiques, le travail d'éducation à la paix et de médiation dans la région des Grands Lacs n'aboutira pas à l'avènement de la paix. C'est ce que pensent les experts des différents pays de la région de la CIRGL qui prennent part aux travaux de la table ronde régionale conjointe sur la paix et la sécurité organisée par la CIRGL depuis hier à Bujumbura. Pour le recteur de l'université catholique, la Sapiens Yade Goma, tant que les politiciens et les éducateurs de paix n'attacheront pas la même valeur à la paix, la situation dans les pays de la région ne sera pas stable. Abbé Innocent Nirindekewe l'a dit au micro de Rosalie Zawadi.
La paix, c'est une valeur. La cohabitation, c'est une valeur. Être dans sa propre patrie, c'est une valeur. Il y a des choses qu'on ne négocie pas, mais il y en a qui les comprennent et d'autres qui ne les comprennent pas. Nous n'avons pas la même compréhension ou les mêmes intérêts que les acteurs politiques. Nous travaillons autant d'années. Moi, c'est parmi les choses qui m'ont frustré en venant même ici. Je me dis, au fond, nous, on est en train de travailler sur quelque chose d'important pour la stabilité et le développement de nos pays, de Grands Lacs, mais nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui travaillent pour d'autres agendas et qui ne veulent pas que la paix vienne parce qu'ils ont des intérêts mafieux. Je me dis alors, est-ce que la valeur que nous donnons à la paix, c'est la même valeur que eux donnent à la paix? Mais en tout cas pour nous, on est convaincus que la paix doit partir en amont d'abord. Il faut éduquer les enfants dès les bas âges. Alors si on réussit ce pari-là, oui. Mais on peut être contrecarré, comme nous le voyons. Moi, je suis à l'université, que les universités deviennent de plus en plus des milieux ou des politiques sincères pour pouvoir mobiliser la jeunesse pour leurs intérêts.
Monsieur l'abbé Innocent Nyirindekwe propose une conscientisation individuelle de tous les dirigeants de la région. Les prix des biens de première nécessité ont augmenté à Kimé, dans le territoire de Kabongo, province du Olomami. C'est notamment la farine de maïs et de manioc. Ceci est aussi la conséquence de l'incendie de plusieurs moulins installés au marché par des inconnus qui continuent à courir les rues. La société civile locale plaide pour que les autorités locales se penchent sur cette question et que les prix des produits agricoles soient revus à la baisse en cette période des récoltes. On écoute Christophe Ngoy, président de cette structure citoyenne, joint par Jean Gandou.
Au niveau des Kimé, il y a eu incendie au niveau du marché, 19 moulins sabotés par ces inciviques. Il y a même les étalages qui étaient aussi incendiés. Nous sommes en train de nous demander qu'est-ce qui a fait que ces moulins soient brûlés. Il y a l'hausse des prix par rapport au maïs. Si chez nous, à partir de ces mois-ci, le maïs ne pourrait pas se retrouver à 2000 francs les méca. Et si, pour les moudres, il faudrait 800 francs. Donc, pour qu'un ménage ait au moins un méca de farine, il faut qu'il dépense 2800 francs. Ça nous coûte. Les commerçants qui nous amènent les biens de Lubumbashi ont aussi fait les prix. À ce moment, les prix d'un méca d'arachide ne pourraient pas se retrouver à 5000 francs. Avant, c'était 3500. Nous demandons que les autorités puissent s'impliquer par rapport à l'incendie ainsi que par rapport au prix. Nous allons à tout prix chercher à dénicher ces inciviques pour qu'ils soient découragés par la loi et que les autorités aussi nous aident pour que les opérateurs économiques puissent nous donner les prix normaux.
Deux morts et cinq blessés graves, c'est le bilan des affrontements interclaniques qui ont eu lieu le week-end dernier à Taragini, territoire de Yakoma. Nous sommes là dans le nord Ubangi. Les villageois disputaient des espaces arables entre les clans Makete et Konge Valley. Mais le conflit perdure depuis longtemps. Ainsi, l'autorité territoriale qui est allée imposer l'accalmie demande l'intervention de la justice en vue d'un règlement définitif de ce conflit foncier. Éclairage avec Paul-Richard Malengela.
De retour à Yakoma ce mercredi matin, l'administration du territoire a parlé d'un conflit foncier à la base du drame qui s'est produit samedi dernier à Taragini, puisque les deux clans Makete et Konge Valley du groupement Guinée se disputent depuis longtemps une portion de terre pour leurs activités champêtres. Cette fois, a ajouté Edmond Lokame, ces villageois ont fait usage d'armes blanches. C'est ainsi qu'il y a eu un mort de part et d'autre, mais aussi cinq blessés graves, dont deux admis à l'hôpital de Wassolo et trois autres à Yakoma Centre, tandis que les deux corps ont été inhumés aussitôt en présence de la délégation territoriale. L'athée Edmond Lokame et les membres du comité de sécurité qui l'accompagnaient ont déploré la nonchalance et la partialité des autorités coutumières locales dans le traitement du dossier, notamment l'actuel chef du groupement Guinée. Malgré le calme rétabli par la délégation, l'autorité territoriale dit craindre le pire si aucune décision définitive n'est prise. L'AT lui-même se dit dépourvu de moyens logistiques. Voilà pourquoi il estime nécessaire la descente urgente des autorités provinciales en charge des affaires foncières et de la justice afin de rétablir les uns ou les autres dans leurs droits fonciers. Mbandaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi au Kasaï central. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a lancé ce mardi à Kananga l'immatriculation des fonctionnaires et agents des services publics. La cérémonie s'est déroulée devant les cadres, agents et fonctionnaires de l'État. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un processus d'enregistrement informatique qui débouche par l'octroi d'une carte de sécurité sociale, a indiqué Jean-Pierre Liaou. Selon lui, cette identité permettra de s'affilier à la Caisse nationale sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Les propos de Jean-Pierre Liaou sont recueillis par François Kadima.
La Caisse de sécurité sociale est l'organisme public de prévoyance sociale que le gouvernement a mis en place pour la gestion de la couverture sociale des agents publics congolais contre les différents risques sociaux. Donc la CNSAP n'est plus à proprement parler une caisse nouvelle, tant ses réalisations sont nombreuses. Elle fonctionne déjà dans la quasi-totalité du territoire national et vient ces jours matérialiser l'affiliation des agents publics du Kasaï central à travers le lancement officiel et symbolique de l'immatriculation à son régime de sécurité sociale. La CNSAP permet donc d'offrir à l'agent immatriculé une identité unique.
Et puis, le chef de l'État a reçu ce mercredi devant le Congrès du Parlement au Palais du Peuple les serments des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il venait dénommer. Il s'agit de Dieudonné Mandia, Christian Bahati Yuma et Sylvain Lumumbaya, respectivement venus du Parlement, du Conseil supérieur de la magistrature et du président de la République. Ils ont juré loyauté et fidélité au magistrat suprême, à la Constitution, impartialité et de garder le secret de leurs délibérés. Le chef de l'État a pris acte de leur serment. Si Christian Bahati a été présenté par le CSM, Sylvain Lumu, avocat défenseur des droits de l'homme et enseignant de droit à l'UNIKIN, était jusque-là directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Quant à Dieudonné Mandia, il était sénateur. Les trois juges remplacent ainsi les trois anciens juges tirés au sort, dont Dieudonné Kaluba, Prince Funga Molima et Polycarpe Mungulu décédés.
Actualité internationale.
8 gendarmes ont été tués mardi et 33 blessés au cours d'une attaque terroriste à Ouaraou, une localité située dans le département de Gotey, au sud-ouest près du Burkina Faso, a indiqué le gouvernement nigérien. Selon un bilan provisoire, 8 gendarmes sont morts, 33 ont été blessés, dont 6 gravement. Une cinquantaine de terroristes ont été tués. Selon le ministère, cette attaque a visé des éléments de la gendarmerie en mission de sécurisation des villages environnants de Ouaraou, situé non loin du Burkina Faso. Le Kenya a exprimé des regrets quant à la présence d'un drapeau du Somaliland, région séparatiste de Somalie, à un briefing diplomatique à Nairobi qui avait provoqué une vive protestation de la Somalie. Quelques heures après que l'ambassadeur de Somalie au Kenya eut quitté une réunion diplomatique à Nairobi en raison de la présence d'un envoyé du Somaliland, le ministère kenyan des Affaires étrangères a regretté la présence inappropriée d'un drapeau du Somaliland, sans toutefois mentionner celle d'un envoyé de cette région qui a proclamé son indépendance en 1991. Le ministère souhaite de nouveau réaffirmer sa reconnaissance de la souveraineté d'un unique gouvernement fédéral somalien et de l'intégrité de l'État fédéral de Somalie, ajoute le communiqué de la diplomatie kenyane.
L'invité.
Grâce à l'éducation à la paix, les communautés de différents pays de la région des Grands Lacs ont construit des liens solides qui résistent aux conflits politiques. Ce sont les propos du professeur Philippe Kanganda de l'Université évangélique en Afrique basée à Bukavu lors de la présentation par la CIRGL mardi à Bujumbura du manuel pour l'éducation à la paix dans la région des Grands Lacs. Le professeur Kanganda parle de la valeur et des défis de l'éducation à la paix dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Professeur Philippe Kanganda, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Pour vous, c'est quoi la particularité de ces manuels d'éducation à la paix pour la région des Grands Lacs produits par la CIRGL?
Ah oui, ces manuels sont un outil important pour enseigner, éduquer si vous voulez, les populations de la région des Grands Lacs aux valeurs et aux pratiques de paix. Je dis que c'est une valeur ajoutée globale, mais il y a aussi d'autres aspects particuliers sur l'environnement, sur la médiation, sur le trauma healing, etc., et qui sont effectivement de thématiques assez intéressantes au regard du contexte de notre région pour construire une paix commune.
Quels sont les principaux défis auxquels fait face ce travail d'éducation à la paix dans cette région?
Oui, il y a d'abord une dimension assez particulière que nous avons souvent invoqué, c'est la question de la pauvreté, le manque d'emploi chez les jeunes. Tout cela rend vraiment un environnement économique assez fragile et qui ne permet pas à une masse importante de jeunes de pouvoir garantir leur avenir. Et à cause de ça, bien sûr, plusieurs jeunes peuvent se retrouver dans des activités de troubles de la paix, notamment la criminalité urbaine, le viol ou encore l'enrôlement dans les groupes armés. Et au-delà de ça, il y a aussi un défi lié à l'environnement politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Nous avons parfois des conflits entre les États. Et aussi, bien entendu, des guerres, s'il faut ainsi dire. Nous avons la présence de groupes armés, par exemple en République démocratique du Congo, et ça fait que justement les efforts de paix sont quelque peu réduits à cause de ces défis. Voilà.
Et dans ce contexte de la région où la paix est perturbée, qu'est-ce qui vous motive à continuer sur les chemins de l'éducation à la paix?
Malgré ces défis de l'environnement, politique et sécurité de la région, l'éducation à la paix garde toute sa pertinence, étant donné qu'elle touche les communautés, les populations au niveau de la base. Et ces populations continuent, malgré tout, à se fréquenter, à faire leurs économies, à maintenir leurs relations sociales, à maintenir même des relations matrimoniales qui ressortent de ces interactions au niveau de la région des Grands Lacs. Ce qui fait que, justement, même lorsque les États engagent des guerres, des conflits entre eux, les communautés estiment qu'elles ont beaucoup de choses à préserver et qu'on ne peut pas considérer comme une paix passive, mais plutôt comme un engagement à continuer à collaborer, à communiquer pour maintenir, n'est-ce pas, l'équilibre régional attendu. Et en plus, à mon avis, cet effort des communautés, ça peut être une motivation pour les États à cesser à se battre ou à cesser à se faire de conflits et à entretenir l'insécurité entre eux.
Aujourd'hui, les manuels d'éducation à la paix pour la région des Grands Lacs est produit. Comment un RDC comptez-vous l'utiliser, le vulgariser au niveau de toutes les communautés?
Oui, le manuel d'éducation à la paix a d'abord un premier, la première cible, ce sont les jeunes. Et donc, ce manuel devra être en principe enseigné, parce que le projet concerne les jeunes, dans les universités, mais aussi dans toutes les initiatives de jeunes d'éducation à la paix ou de transformation des conflits. Donc, il y a le niveau formel dans les écoles, le niveau informel, c'est dans les associations et les groupes des jeunes qui ont pour thématique la transformation des conflits. Également, on peut le vulgariser dans le groupe d'âge. Il y a parfois des dialogues intergénérationnels, des dialogues interculturels dans lesquels ces manuels peuvent être utilisés, notamment sur des thématiques de médiation, de vouloir vivre ensemble, et ainsi de suite.
Professeur Philippe Kaganda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs, ça en est ainsi fini avec ce journal. Merci pour votre sympathique attention.